Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le troisième jour de notre série sur l'économie de la famille. Depuis Malthus, les théoriciens cherchent à déceler la part de rationalité qui se dissimule derrière nos choix amoureux et familiaux. Pourquoi décide-t-on d'avoir des enfants ou de former un couple ? Voilà les questions dont nous débattons cette semaine et qui jettent une lumière crue sur les inégalités de genre dans nos sociétés. Au commencement était le travail en famille. Pendant des siècles, la ferme familiale est l'unité de base de la production économique, une organisation bouleversée par la révolution industrielle qui précipite le travail hors de la sphère intime. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire du travail en famille en compagnie de Yann Moulier-Boutan, économiste, professeur émérite à l'Université de technologie de Compiègne et auteur de cet essai de l'esclavage au salariat, économie historique du salariat bridé, paru aux presses universitaires de France. En compagnie également de Fabrice Boudjaaba, historien, chargé de recherche au CNRS, affecté au Centre de recherche historique et directeur de l'ouvrage « Le travail et la famille en milieu rural, 16e-20e siècle », publié aux presses universitaires de Rennes. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Fabrice Boudjaaba et Yann Moulier-Boutan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord expliquez-nous peut-être ce que l'on désigne lorsque l'on parle de travail familial ou d'économie domestique. Il y a un travail de définition à faire, Yann Moulier-Boutan.
Oui, A priori, ça peut sembler un pléonasme, puisque le terme même d'économie, dans économie, il y a oikos, qui est le milieu, mais qui est aussi la maison. Chez les Grecs, ça désignait toute la sphère économique, opposée à la sphère publique, on planquait la sphère économique, elle n'était pas importante, elle était une condition d'exercice de la sphère politique. Ce qui, comme l'a montré Hannah Arendt, avait la chance d'être délivré de la contrainte matérielle de pourvoir aux besoins d'élever les enfants, de s'occuper de tout ça, bénéficiaient de l'osium, du loisir qui leur permettait de faire de la politique. Donc aux hommes, la politique, la citoyenneté, aux femmes, aux esclaves, aux enfants, je dirais la sphère de la reproduction. C'est bien gros terme.
Et donc on commence à parler d'économie domestique quand précisément l'économie sort de la sphère privée.
Quand l'économie commence d'abord à acquérir une importance tel qu'aujourd'hui on peut parler de la vraie religion et le nouvel opium du peuple, et deuxièmement, quand elle devient tellement publique que c'est l'affaire numéro un et qu'elle embrasse tout, y compris un petit département qui est celui tant du travail hors travail, non rémunéré, du travail qui va de soi, du travail naturel, que justement la famille est censée accomplir, en oubliant toute la construction qu'il y a derrière.
Fabrice Boudjaaba, sur ces termes de travail familial, d'économie domestique.
Alors, sans contredire du tout la précédente intervention, on peut faire aussi une autre généalogie du terme économie domestique, qui effectivement, vous avez parfaitement raison, est tout à fait redondant. C'est celui qui consiste à dire qu'au fond, jusqu'à l'industrialisation, la famille est à la fois un espace de relation entre gens apparentés, mais c'est également l'unité de production de base, finalement, de l'ensemble de l'économie. Et on le voit très bien, par exemple, dans l'usage des termes encore sous l'Ancien Régime, avec le terme de maison, qui est très utilisé, notamment dans le Sud-Ouest, dans les Pyrénées. On parle des systèmes à maison, avec une transmission inégalitaire de la terre. Et la maison, c'est un terme qui désigne deux choses à la fois la maison où vit une famille, et l'ensemble de l'exploitation agricole qui entoure cette maison. Et donc, effectivement, il y a ce lien consubstantiel, je dirais, entre l'économie et la famille, puisque la famille est bien l'unité de base de la production durant des siècles.
Alors, c'est important de souligner, en effet, Fabrice Boudjaaba, que pendant longtemps, et notamment sous l'Ancien Régime, la ferme familiale est au cœur de la production économique. Et alors, comment les tâches sont réparties entre les membres de la famille ?
Alors, sur ce point, évidemment, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de sources variées, mais on n'a pas de schéma absolument générique de la manière dont les tâches sont réparties. On sait, par beaucoup de travaux d'historiens, que les tâches sont sexuées, disons, dans la famille, hein, que les tâches qui reviennent aux hommes ne sont pas celles qui reviennent aux femmes, et que si la direction de l'exploitation, le fait de mener la charrue, qui est un travail de force, revient généralement à l'homme, l'organisation de la vie domestique, mais qui a aussi une dimension économique, revient dans la ferme très souvent à la femme, et l'organisation domestique, ça veut dire non seulement s'occuper du foyer, commander les servantes quand il y en a, mais c'est aussi s'occuper de la basse-cour, c'est aussi s'occuper de la ou des vaches, et donc des produits dérivés de l'activité laitière.
Une division sexuée du travail qui contribue à une invisibilisation du travail des femmes, Yann Moulier-Boutan.
Oui, alors il faut bien voir ça comme un processus historique, parce que mon collègue est historien, a surtout travaillé sur la période qu'on peut appeler moderne, en histoire moderne. Or, les anthropologues d'un côté, les historiens qui remontent au Moyen-Âge ou à l'Antiquité vont, par exemple, contester fortement ce que signifie le terme de famille. Les ethnologues vont préférer le terme de parentèle. Ils vont examiner tous les rapports de parenté. Et surtout, la division du travail, alors ça Esther Bozrup l'a montré, par exemple en Afrique, dans les sociétés dites premières, est très tard, pratiquement jusqu'à il y a un siècle. Le rôle des femmes était prépondérant dans l'agriculture, et les hommes, curieusement, s'occupaient intensément de l'éducation des enfants, et particulièrement des garçons d'ailleurs. Et donc, ça n'a pas toujours été à la fois et la famille, et la division sexuelle des tâches que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a eu aussi des refoulements, c'est-à-dire que l'histoire moderne est le produit de, par exemple, d'un refoulement. Si on pense à ce qu'était la gens romaine, la maison romaine, la ferme romaine qui entre en décadence dans le début, le haut Moyen-Âge, avec ces servus qui vont devenir, vont être remplacés par les serfs, donc des gens qui sont des aides familiaux malgré eux, ils sont dans la même domus. Et puis d'autre part, le rôle des femmes, on s'aperçoit que les femmes ont occupé des places, y compris d'ailleurs au Moyen-Âge, que, alors Silvia Federici l'a montré, des procès en sorcellerie, tout un mouvement a rejeté les femmes dans la maison, bien avant que le capitalisme industriel ne le fasse également.
Alors on va voir effectivement que cette répartition des tâches entre hommes et femmes subit de nombreuses évolutions au cours des 19e et 20e siècles. Mais ce qui est intéressant de souligner, Fabrice Boudjahabas, ce sont les travaux d'Alexandre Chaïanov, qui est cet historien russe né en 1888 et qui nous permet peut-être de poser la question de l'efficacité de ces structures agricoles familiales.
Effectivement, Chaïanov, c'est un auteur russe, un ingénieur agronome, en fait, qui fait des travaux, qui regarde comment fonctionnent les familles russes. Donc, on est dans les années 1920 et on est donc dans une économie encore assez particulière. Et au fond, Chaïanov décrit un système de production dans lequel la famille est la cellule de base de la production et dans lequel, au fond, les familles évoluent dans un système que je qualifierais de relativement autarcique, avec peu de relations avec le marché. Et donc, ce qui fait de la famille vraiment l'unité dans laquelle on comprend l'économie, c'est Chaïanov, c'est qu'il considère qu'au fond, ces familles sont relativement isolées du marché et que les évolutions de leur exploitation, elles ne tiennent pas tant compte des évolutions d'un marché qui est relativement absent, mais davantage des évolutions de la famille elle-même. Et que l'exploitation va se modifier dans sa taille, dans les types de production en fonction du nombre d'enfants qui sont en âge de travailler, du nombre d'enfants qu'il y a à nourrir, etc. Et cette littérature produite par Chaïanov dans son livre de 1925, elle va avoir un fort écho à la fois dans le monde anglo-saxon, puisqu'il est traduit après la Seconde Guerre mondiale, et puis dans l'historiographie française, parce que, au fond, ça rejoint aussi une conception relativement autarcique de la famille comme unité de production qui court aussi dans la littérature scientifique historique occidentale.
Et bien justement, je vous propose d'écouter un extrait de son ouvrage « L'organisation des fermes paysannes » écrit en 1925.
Bien sûr, il est évident que l'économie agraire de pays tels que la Chine, l'Inde, l'Union soviétique ou d'autres contrées encore d'Europe de l'Est et d'Asie ne fournit pas les réussites frappantes que l'on peut observer grâce aux nouvelles formes d'organisation dans les pays industrialisés d'Europe de l'Ouest. Néanmoins, tout phénomène économique se doit d'être examiné autant que possible, en profondeur et du point de vue de ses évolutions internes. Si l'on adopte une telle approche pour observer les pays agraires, il apparaît alors, à la grande surprise de tous, que l'agriculture n'y est pas inadaptée, de manière définitive, à la mise en œuvre d'une grande variété de politiques organisationnelles. Bien au contraire, c'est précisément dans ce secteur, à notre époque contemporaine, que d'intenses changements ont lieu. Des changements qui n'ont rien à envier aux innovations de grande ampleur que l'on rencontre dans l'industrie. Notre lecteur découragé peut dès lors comprendre avec profit que c'est précisément dans ces zones délaissées que subsiste un énorme potentiel pour réaliser les objectifs du futur. La campagne, qui présentait encore, il y a seulement 10 ou 20 ans, un tableau anarchique de petites exploitations à moitié incultes, est sur le point de devenir aujourd'hui le lieu de vastes innovations structurelles et la base d'activités économiques de grande ampleur.
Yann Moulier-Boutan, que vous inspire ce texte, cette vision développée
par Chine ? Peut-être un complément par rapport à ce que vient de dire mon collègue. Je pense que le message de Tchaïanov, il faut bien comprendre que c'est un économiste au fond à sympathie menchévique qui s'oppose assez fortement à la vulgate socialiste qui considère, souvenez-vous de la phrase terrible de Lénine, les paysans on les aura pas en bloc, on les aura au détail. Et qui pensait que les paysans étaient une classe impossible de modifier, qui ne bougerait pas, qui ne se moderniserait pas et qui ne suivrait pas le grand mouvement de modernisation industrielle que le socialisme scientifique allait promouvoir sans les inconvénients du capitalisme. Et que dit Tchaïanov ? Il dit au fond, il fait un pari en disant que l'agriculture susceptible de s'adapter, on est au début du XXe siècle, de se moderniser, d'adopter les techniques, de rentrer dans le marché, c'est là où je marquerai peut-être une réserve par rapport à mon collègue, c'est, dit-il, le modèle de l'agriculture paysanne versus la grande agro-industrie qui reposait chez les socialistes sur le sauf-cause ou le col-cause et chez les capitalistes sur un salariat agricole qui était tiré d'ailleurs des grands domaines qui avaient fait leur apparition dans l'Allemagne de l'Est.
Alors, et ça, Tchaïanov va d'ailleurs le payer de sa vie, puisqu'il est fusillé en 1937.
Oui, oui. Et alors Tchaïanov s'opposait à ça et disait « Il faut des prix agricoles rémunérateurs. S'il y a des prix agricoles rémunérateurs, on verra que les structures agricoles qu'on pourrait qualifier en apparence d'autarciques sont capables de se mobiliser, de bouger, et de produire des choses et d'avoir un rendement. C'est la leçon que, par exemple, la France a retenue dans la modernisation agricole, c'est-à-dire les radicaux, au moment du Front populaire, étaient tous déjà pour la défense de la petite propriété, de la petite exploitation familiale. Mais je pense que la grande victoire de Tchaïanov, posthume, ne se situe pas simplement dans l'économie capitaliste de production actuelle agricole. Il se situe, par exemple, dans la révolution faite par Deng Xiaoping, quand il a introduit en 1978 une révolution par rapport à tout la vulgate en maoïste Chine. Chine, et qui a consisté à lancer les communautés agricoles en rétablissant le lopin, en rétablissant des prix libres, c'est-à-dire des prix rémunérateurs. Il a parié sur le fait que l'impulsion de modernisation décisive dans l'accumulation viendrait en partie des paysans. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en 10 ans. Ça a été la clé du développement industriel chinois.
Et effectivement, les théories de Tchaïanov font encore référence pour l'analyse des économies paysannes des pays du Sud. Mais ce qu'on constate, de Fabrice Boudjaba, c'est que chez Tchaïanov, le travail agricole peut se faire à l'échelle de la famille ou de la communauté villageoise. Ça dépend un petit peu du produit que l'on va cultiver.
Effectivement, il y a ces deux échelles. En fait, le fond, ce qui est intéressant d'ailleurs dans le passage que vous avez passé de Tchaïanov, c'est que il oppose d'un côté la Chine, l'Inde, l'Union soviétique, et donc au fond l'Europe occidentale et aux États-Unis qui ont développé des modèles d'agriculture un peu différents, mais en fait qui ne sont historiquement pas si différents. C'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours, de ce point de vue-là, le communisme et le capitalisme sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que les deux mettent ont du mal avec le monde agricole, parce que le monde agricole ne correspond pas au fait que le travail s'exerce dans un emploi et donc dans une relation salariée, globalement. Alors qu'effectivement, et c'est encore le cas, même aujourd'hui, a fortiori dans les années 30, 20-30, quand écrit chez Yanov, l'exploitation agricole sort du schéma de l'emploi salarié ou de l'emploi ouvrier, qui est si cher à Lénine, en fait, qui est effectivement le même que l'emploi salarié dans le monde capitaliste. Et c'est pour ça que le monde agricole est intéressant pour Chaniaïev. C'est parce qu'il est effectivement une figure de production économique qui va à l'encontre du schéma de l'emploi capitaliste, ou encore une fois communiste, mais...
Et en même temps, c'est un système qui pose un certain nombre de problèmes, notamment le fait que chez Chaïanov, le travail, c'est une activité collective, mais dont le revenu n'est pas fractionnable entre les différents membres de la famille. Et on va voir ce mouvement d'individualisation progressif au 19e et au 20e siècle, Yann Moulier-Boutan.
Alors l'idée quand même fondamentale de Chaïanov, c'est que la cellule globale, économie familiale, dans laquelle il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des aides familiaux, il peut y avoir une parentèle étendue, il peut y avoir au contraire la famille mononucléaire. Elle va, par rapport au marché, non pas se situer dans une perspective de fermeture totale, mais elle va être capable d'adopter des stratégies comportementales qui visent à tirer le meilleur parti possible des opportunités du marché. C'est-à-dire de refuser, par exemple, si le marché n'est pas rémunérateur, on va pas se mobiliser pour le marché. Si le marché est rémunérateur, on va faire un calcul, et c'est ça qui a fait sa fin, comme les marginaux, comme l'économie marginaliste, on va faire le calcul, est-ce que ça vaut le coup qu'on y va, et que l'effort qu'on fait, par exemple, pour accroître les rendements ou changer de culture, va rapporter quelque chose. Du coup, c'est pas tellement l'autarcie qui est importante, c'est l'autonomie de comportement. Et comme mon interlocuteur le soulignait, c'est ça qui agace prodigieusement les planistes, les planificateurs, c'est que l'économie paysanne, elle est aussi bien capable de se mouvoir et de pas être un acteur passif qui enregistre tout, que de résister à un embrigadement dans le salariat. Mais même, elle va, et ça a été souligné par Sayad, elle va être capable de déléguer certains de ses membres, je pense aux cadets dans les familles algériennes, pour que la cellule d'exploitation familiale résiste. On va accepter, notamment quand la colonisation exige le paiement de l'impôt en numéraire, ce qui fout par terre les stratégies d'autoconsommation et d'autarcie, on va envoyer le cadet faire le migrant temporaire, envoyer de l'argent pour payer l'impôt et pour résister, etc. Donc c'est ça la dimension intéressante de l'économie familiale, l'économie paysanne.
Ces stratégies de résistance dont vous parlez, elles sont au cœur de notre sujet. En effet, comment la ferme familiale se maintient-elle face à l'apparition de grandes exploitations commerciales? Et là, vous apportez un éclairage intéressant, Fabrice Boudjahaba, dans votre ouvrage, avec l'exemple de la Lombardie au XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on est face à une tension entre l'organisation collective. Vous l'avez dit, le travail n'est pas fractionné, le revenu n'est pas fractionnable de manière claire dans une exploitation agricole, puisqu'au fond tout le monde travaille sur le même champ. J'ai envie de dire, il est difficile de dire que telle personne a fait 20%, 30% du travail et mérite la part équivalente de revenus. Et du coup, cette tension, elle est d'autant plus compliquée à admettre dans une logique ou capitaliste ou même dans un système communiste, parce que l'objectif reste toujours la reproduction du groupe familial et l'équilibre de l'économie familiale. Et donc, on est en contradiction avec l'hypothèse de faire des profits, qui n'est pas un but en soi de l'exploitation familiale, mais qui est simplement que chacun trouve sa place et trouve ses moyens d'existence. Et donc, on est vraiment face à une difficulté. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, vous avez cité le cas de la Lombardie, mais on peut le voir dans d'autres cas, que les individus n'ont pas eux-mêmes leur propre parcours, leur propre volonté de faire autrement que ce qu'impose le schéma de reproduction familiale. Simplement, cette tension entre le collectif et l'individuel reste toujours très forte. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question du numéraire. Effectivement, elle est extrêmement importante parce que, en fait, historiquement, ces paysans, bien qu'on puisse penser que leur objectif est de reproduire leur activité sans se soucier d'être productif au fond, mais simplement d'avoir les moyens d'exister avec, elles butent sur quelque chose de fond, c'est le besoin numéraire. Le besoin numéraire, il est là pour consommer, la consommation existe dans les siècles passés. Et puis, elle existe surtout, ce besoin de manière, elle existe surtout parce que il se passe quelque chose de très important sous l'Ancien Régime, c'est que le roi de France a besoin d'argent. Et que le roi de France, il a choisi de faire payer les paysans, grosso modo. Et donc, ils doivent payer la taille, et pour ça, ils doivent trouver du numéraire. La taille, elle se paye en numéraire. La dîme à l'église, elle se paye en part de récolte, c'est facile, entre guillemets. Mais la taille du roi, l'impôt royal, il faut le payer en numéraire. Et donc, il faut accéder au marché.
Et c'est aussi ce qui explique que va apparaître au XVIIe et davantage au XVIIIe siècle une proto-industrie textile avec là encore un modèle familial de la ferme que l'on retrouve, Yann Moulier-Boutan.
C'est-à-dire qu'on retrouve d'abord le fait que le capitalisme est beaucoup plus ancien que le XVIe, XVIIe siècle. Il faut pratiquement reculer à la grande peste noire et ce qui suit, la proto-industrialisation rurale. Les stratégies d'acteurs qui, effectivement, vont combiner un travail qui est déjà du putting out system, c'est-à-dire de la sous-traitance qui est dominée par des marchands qui éventuellement fournissent les machines. Et le paysan, n'oublions pas que le paysan n'a pas autant d'ossium de loisirs que le berger, mais le paysan a quand même des grands trous. C'est-à-dire il a une activité discontinue. Donc pendant les périodes, une fois que la semaille est faite, les labours sont faits, les semailles sont faites, il y a une période d'attente. Et dans ce temps-là, il y a des stratégies de trouver des ressources sur le marché. Alors dans le livre collectif que vous avez dirigé, Fabrice, il y a un truc extrêmement intéressant, c'est qu'on voit que par exemple les femmes de marins, qui sont face à l'absence de leur mari, ça peut aller de 15 jours quotidienne, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, à 1 an et demi, 2 ans, eh bien, elles multiplient les interventions, donc elles sont pas passives par rapport au marché, à l'économie en général, elles essayent de faire tenir la baraque.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette proto-industrie se développe, mais sous un modèle qui est encore très familial, avec des métiers à tisser, par exemple, qui étaient encore dispersés dans les campagnes et qui n'ont été regroupés, finalement, dans des grandes manufactures qu'au milieu du 19e siècle, Fabrice Boudjahaba.
Et même au-delà, en fait, on a une vision souvent un peu transformée de l'industrialisation. On parlait longtemps de la révolution industrielle, et puis finalement, on considère qu'elle n'a jamais existé, cette révolution industrielle, parce qu'au fond, ces processus de transformation des modes de production étaient extrêmement longs. Et effectivement, on trouve au Moyen-Âge déjà du textile dans les campagnes. Le marchand urbain vient fournir la matière première, parfois le métier, vous l'avez indiqué, et il vient rechercher une matière transformée en tissu quelques semaines plus tard. Ça, c'est un schéma qui dure effectivement jusque très tard dans le XVIIIe siècle et même au XIXe siècle. Et quand bien même on arrive au stade de l'atelier, de l'atelier industriel entre guillemets, il faut vraiment attendre la fin du 19e et le début du 20e siècle pour que ces ateliers, au fond, emploient des gens de manière régulière. Cet aller-retour des ouvriers entre la ferme et l'usine, c'est quelque chose qui perdure très très longtemps.
J'allais dire, il y a peut-être une différence ici entre le Royaume-Uni et la France. Les ouvrières britanniques vont davantage dans des grandes structures de façon assez précoce.
Par exemple, la loi sur les pauvres s'analyse comme une tentative de fixer les pauvres, y compris urbains, car en Grande-Bretagne, en plein pendant la Révolution industrielle, un nombre considérable de gens étaient à cheval entre la ville, entre la grande agglomération de Londres et la campagne, notamment dans le sud. Et au fond, on allait travailler en ville 6 mois, 3 mois, on revenait. Dès qu'on avait de l'argent, qu'on avait suffisamment d'argent, on se retirait de la relation suivie. Et c'est pour ça que les patrons ont fini par essayer de rassembler tout ça dans des usines et de payer des salaires continus pour éviter un absentéisme très fort, et qui était le problème majeur des mercantilistes.
C'est le turnover. Juste un chiffre.
Bien sûr.
Vous avez évoqué la Grande-Bretagne. En 1880, en Grande-Bretagne, on estime que 60% des ouvriers travaillent dans des ateliers de moins de 5 personnes. Donc la grande usine, même en Grande-Bretagne, en 1880, elle n'existe pas. Enfin, elle existe, mais ce n'est pas une réalité partagée par tout le monde ouvrier. Et ces allers-retours sont effectivement continus. Le fond du problème pour l'industrie, c'est de maintenir, c'est de fixer la main-d'œuvre, qui ne refuse.
La révolution industrielle change les rôles, en ce sens que la femme devient productrice sur le marché extérieur, alors qu'elle l'était beaucoup moins, d'une part, et d'autre part, les espaces sont également bouleversées dans la mesure où l'usine, c'est quelque chose qui est extérieur au foyer. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une extraordinaire résistance de la société globale et du monde populaire à ce changement des rôles. Parce que le travail a pu et peut être libérateur pour les femmes de classe moyenne, pour la femme qui est boutiquière, qui est boulangère ou qui plus tard sera intellectuelle. Mais dans le monde ouvrier, c'était finalement assumer un double rôle très très difficile.
L'historienne Michel Perrault, dans une archivina de 1977, lorsque le travail se concentre dans des usines, Fabrice Boudjaba, est-ce que on constate qu'à ce moment-là, le travail des femmes à l'usine est vécu comme une concurrence par les hommes ?
Alors, c'est clairement une concurrence, puisque durant tout le 19e siècle, et même en fait dans la comptabilité médiévale, on constate que globalement, les femmes sont moins payées que les hommes. Donc, c'est clairement une concurrence. D'abord, au 19e, elles viennent en concurrence. Elles viennent d'abord en remplacement des enfants. Dès que la loi interdit le travail des enfants, pour aller sous le métier à tisser, les femmes sont plus à l'aise que les hommes. Donc, cette concurrence existe. Mais il y a à la fois cette concurrence entre les hommes et les femmes. Mais encore une fois, il y a des secteurs qui sont plus, entre guillemets, qui emploient plus d'hommes, d'autres plus de femmes. C'est pas tellement en termes de concurrence. Je crois que c'est pour le monde ouvrier, il y a aussi une question du rôle, de la conception qu'on a du rôle de la femme. Et au fond, autant j'ai envie de dire le travail de la femme à la ferme ne pose pas de question, même s'il est souvent invisible, même si souvent on ne le voit pas dans les sources. Le travail à l'usine, c'est quand même quelque chose qui est le résultat d'une contrainte économique. C'est pas quelque chose de souhaité, entre guillemets. Et au fond, l'ouvrier qui monte un peu dans la hiérarchie de son usine, dès lors qu'il a épousé sa femme et qu'elle a fait un enfant, son souhait, c'est qu'elle arrête de travailler. Donc, on n'est pas exactement dans le même rapport au travail, parce que ce travail salarié, il est moins admis assez durablement encore dans la première moitié du XXe siècle.
C'est un signe de pauvreté que pour une femme de travailler, Yann Mouly-Boutan ?
Ben, ça dépend d'où elle vient. C'est-à-dire que si elle était agricole, invisible, qui travaillait très durement, ça peut être plus tolérable. Mais l'autre chose qu'on oublie, c'est que le salariat, quand c'est l'homme qui amène le numéraire dans le foyer, il a une position de pouvoir beaucoup plus forte que la femme quand elle travaille, mais ça ne produit aucun numéraire. Et c'est vrai que les femmes ouvrières qui ramènent un salaire à la maison, bah, ça concurrence le modèle dominant mâle, chauvin mâle, et du coup, ça fait que l'autorité masculine, en particulier, je pense, sur la question d'éducation des enfants, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce que dans votre livre, il y a plein de choses intéressantes là-dessus.
On va y revenir aussi un
bouge, peu plus tard. Ça fait bouger le modèle familial de l'intérieur, hein. Ça finit par le rediscuter.
Mais un dernier mot peut-être sur ce travail des femmes selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon que l'on va à l'usine, selon que l'on travaille à la boutique aussi. On n'a pas évoqué cette dimension-là, Fabrice Boudjaba. Ce n'est pas le même regard qui est posé sur le travail des femmes.
C'est pas le même regard, effectivement. Alors là aussi, on a des effets d'invisibilisation du travail des femmes dans la boutique. Mais dans la boutique, elles travaillent assez fréquemment. Simplement, c'est vrai qu'on peut quand même constater une moindre reconnaissance dans les sources, mais aussi une moindre spécialisation, au fond. Et ça, il y a sans doute... là, on voit, au fond, une déclinaison d'une forme d'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le monde du travail de la boutique.
Yes, I'm a hard-working woman out in this world to make my own. Yes, I'm a hard-working woman out in this world to make my own. These men are so good for nothing, you're better off living all alone. Once before, if you wanna be my man, you gotta
sleep on the floor, eat your meals from a can, 'cause I'm a hard working woman, ain't got no time to cook.
Hard Working Woman de Connie Allen sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. L'historien Fabrice Boudjahaba et l'économiste Yann Moulier-Boutan sont toujours avec nous pour parler du travail familial. Et maintenant, nous allons écouter un extrait de L'Arbre aux Sabots, film d'Hermano Olmi qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1978. L'histoire se passe du côté de Bergame, en Italie, et nous plonge dans la vie de quatre familles de paysans pauvres à la fin du 19e siècle.
Ce petit, il faut le faire étudier. Bien sûr, mais 6 km à l'aller, 6 km au retour, ça fait beaucoup.
Il est jeune et il a de bonnes jambes.
Et il faut que ça tombe juste au moment où on en espère un autre. Il aurait pu commencer à donner la main à la maison.
S'il ne t'aide pas maintenant, il t'aidera plus tard quand il sera grand. Laissez faire la Providence.
Quand je pense que j'ai grandi, moi, sans jamais voir le mur de l'école.
Ça, c'est pas une raison. Et tu le sais très bien. Si le Seigneur a donné l'intelligence à ton fils, c'est signe qu'il attend plus de lui des autres. Et toi qui es son père, t'as le devoir de seconder la volonté du Seigneur.
Yann Moulier-Boutan, on entend bien ici l'importance capitale de l'éducation et peut-être le fait que cette promotion de l'éducation va aussi entraîner un certain recul de la petite entreprise familiale, agricole, industrielle ou commerciale.
Oui, alors on le voit d'ailleurs, y compris, moi je me rappelle avoir fait des études sur les immigrants, les immigrés en France, portugais, comparant les nationalités, etc. Et on voyait très bien que les nationalités les mieux représentées dans le petit commerce, dans les petites entreprises, étaient celles dont les enfants avaient des résultats les plus médiocres parce que ils étaient assurés. Dès 16 ans, on les voulait comme aides familiaux, etc. Et l'attrait de gagner un peu d'argent était très fort. Donc ça, c'est une présence très forte de cette question. Il y a aussi le fait que, si vous voulez, quand on est dans un milieu d'aide familiale qui n'est pas rose, il ne faut pas qu'on fasse une mythification. Hein. C'est pas du tout drôle. Le travail agricole, c'est pas Marie-Antoinette. Hein.
On a parlé du manque de reconnaissance, de la non-distribution.
C'est pénible, le monde rural est brutal. On n'a pas parlé de l'inceste. On n'a pas parlé de tout ce que charrie le monde agricole, qui n'est pas très drôle. Et il y a des enfants qui veulent s'en échapper. Et à mon avis, si on veut parler des stratégies individuelles qui, justement, critiquent un peu le modèle de Tchaïanov, enfin, c'est le point de vue du livre hein, dont nous parlons, l'importance pour un certain nombre d'individus, et je pense que les femmes en font partie aussi, minorisées, tenues en minorité, qui comprennent qu'il n'y a de salut que dans l'éducation, que en tentant de sortir par le haut, c'est une présence très très forte. Mmh. Et ça existe véritablement, et ça existe plus d'ailleurs dans les milieux paysans qui étaient très fortement tenus, les milieux parcellaires de paysans, que dans les fils de bergers qui cultivaient aussi les valeurs d'éducation, mais où la contrainte était peut-être moins forte que ceux qui étaient plongés dans l'agriculture multi-active.
Ces stratégies individuelles dont vous parlez sont de plus en plus importantes à la fin du 19e siècle et on assiste alors à une dissociation croissante, Fabrice Boudjahaba, entre le lieu de travail et le lieu de résidence, que ce soit pour les hommes et pour les femmes.
Oui, dès lors qu'on quitte que se développe le travail en usine, effectivement, il y a un certain nombre de déplacements entre le lieu de travail, enfin, de distinction entre le lieu de travail et le lieu de résidence. Mais je veux dire que ces mouvements de mobilité sont assez anciens, en fait. Au fond, on n'a pas attendu l'industrialisation pour bouger. Simplement, on bougeait pas exactement pour les mêmes raisons. Si je prends le cas des familles auvergnates, à l'époque moderne, elles ne cessent de bouger vers l'Espagne ou vers Paris, parce qu'au fond, elles bougent pour permettre à la famille de continuer de fonctionner de manière globale. En gros, l'aîné peut partir à Paris travailler quelques années pour trouver l'argent nécessaire pour payer la dot de ses sœurs qui ne vont pas hériter. Voilà, ça peut être un schéma. Mais donc au fond, le mouvement, il existe depuis longtemps dans les campagnes. Simplement, il a plus exactement le même objectif au 19e, puisqu'on va bouger, on peut aussi bouger pour des raisons strictement individuelles. On va aller travailler en ville, on va aller travailler à l'usine, j'ai envie de dire pour son propre profit, sans la perspective du retour et sans la perspective que ce travail soit une partie du revenu de la famille. Voilà. Et puis là, on a une forme d'individualisation qui apparaît.
Il y a un contexte particulier de la fin du 19e siècle, avec une longue crise agricole et un déclin de l'industrie rurale. Et à ce moment-là, il y a peut-être une concurrence de plus importante des grandes usines sur le travail agricole familial, Fabrice Boudjab.
Il y a une vraie concurrence. D'ailleurs, le drame de l'agriculture à la fin du 19e siècle, pourquoi on mécanise en fait? C'est pas du tout parce qu'on pense que ça va coûter moins cher d'utiliser des machines, c'est simplement parce qu'on n'a pas les bras. Soit les gens sont partis, soit faut aussi souligner que la France a une fécondité particulièrement faible déjà à l'époque, et donc il n'y a plus les bras pour travailler dans les champs. C'est ça la principale raison de la mécanisation. Et effectivement, il s'agit pas d'une fuite, mais ça change du coup les rapports dans la famille, puisque si je prends par exemple l'exemple de cette usine de la Chape dans le Briançon, qui dans la deuxième moitié du 19e travaille les résidus de la soie, du travail de la soie, c'est une usine qui travaille là-dessus. En fait, les hommes y vont et les hommes finissent par y trouver leur intérêt, alors que c'est eux qui devraient hériter de la ferme familiale. Et finalement, d'une certaine manière, il y a une inversion des rôles. Ce sont les femmes qui reprennent la ferme, mais ce n'est pas nécessairement un cadeau, j'ai envie de dire. Mmh. Et de la même manière, les héritiers qui reprenaient la ferme de manière systématique dans les Pyrénées au XVIIIe siècle, parce que c'était les aînés, et c'est eux qui reprenaient la maison, au sens plein du terme, à la fin du 19e, au fond, on peine parfois dans certaines familles à trouver un repreneur dans la famille. Voilà, l'aîné a plus envie d'assumer ce rôle. Non seulement il va falloir cultiver une terre peu productive, mais en plus il va falloir vivre avec ses parents très âgés.
Alors on a ce recul du travail familial et en même temps cette présence croissante des femmes dans le travail à l'extérieur du foyer, Yann Mouillé-Bouton. Et c'est peut-être la Première Guerre mondiale qui donne aux femmes l'occasion de mettre en valeur leur rôle économique dans la société, un rôle qui était encore largement nié à l'époque.
Il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale prélève notamment, bien qu'on exempte beaucoup plus facilement les ouvriers d'usine que les paysans des campagnes qui fournissent le gros de la troupe, ça fait quand même une sacrée saignée démographique, et que les femmes souvent, c'est vrai aussi aux États-Unis en 1920, les femmes rentrent massivement dans l'usine, avec cependant une chose qu'il faut ajouter, c'est que concurremment, on va s'apercevoir que, et c'est le passage célèbre de Marx sur la plus-value relative, la limitation du travail, de l'horreur de travail, on va s'apercevoir que pour que les ouvriers ou les ouvrières soient productives, il faut quand même s'occuper de la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire il faut quand même que l'éducation, le logement, la santé, tout ça se soit pris en charge d'une façon ou d'une autre, alors par un système assurantiel au départ, organisé par les syndicats, puis par des systèmes de plus en plus étatiques, avec finalement le welfare state, c'est-à-dire l'État dont nous avons hérité. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le capitalisme fait une mue, il se rend compte qu'il faut, pour avoir des ouvriers productifs qui restent dans l'emploi, dans le bassin d'emploi, à défaut d'être dans la même usine, il faut qu'il y ait une prise en charge, il y ait une partie socialisée du salaire. Mmh. Et cette partie va être de plus en plus importante et elle va favoriser quand même l'inclusion de l'unité familiale dans le modèle de consommation de masse qui va être le ressort de la croissance des années 40, 50 et 60.
Fabrice Boudjaba, sur ces avancées sociales en faveur des femmes et aussi sur le fait que c'est peut-être à la fois une arrivée massive des femmes dans les usines, mais aussi la mise au grand jour de cette arrivée massive.
C'est la Première Guerre mondiale, effectivement, elle signale un changement, disons, de degré dans la visibilité des femmes dans le travail, et donc dans le travail hors de la cellule familiale, et donc visible. Mais il existe effectivement de plus longue date, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par l'absence du mari, simplement. Par l'absence du mari des paysans marins de Bretagne, par le décès du mari, il faut bien tenir compte de l'incertitude de la démographie dans les périodes anciennes, et donc les veuves sont à la tête de leurs exploitations ou de leurs boutiques très fréquemment aussi. Mais effectivement, la Première Guerre mondiale marque une entrée plus visible, mais encore une fois, c'est peut-être plus une accélération d'un processus qu'une nouveauté absolue.
Les femmes se commandaient entre elles.
Oui. Et c'était ta mère qui était la maîtresse.
C'était ma mère qui est restée la dernière maîtresse.
Qui était l'aînée
d'abord. Oui. C'est elle qui, naturellement, caillait le lait, faisait le beurre, le vendait.
Faisait la cuisine avec les autres.
C'était la maîtresse des maisons qui avait la queue de la poêle, si l'on peut dire. il fallait bien que le travail soit donné à chacun.
Oui.
Telle fille ira au champ, telle fille ira lâcher les boutons, telle autre ira à tel endroit.
Et oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait un berger, des bergères. C'était des femmes, en principe.
Ah oui, mais écoute bien.
Et il y en avait qui gardaient les moutons.
Oui, et d'autres qui gardaient les vaches.
Et d'autres qui gardaient les vaches.
Gardaient les vaches.
Et il y avait des chiens.
Oula.
Et des bons.
Et des excellents chiens. Ce n'étaient pas les chiens d'aujourd'hui.
Ça n'était pas les chiens d'aujourd'hui. Extrait du documentaire Paysans d'autrefois, les communautés familiales et agricoles, réalisé en 1986 par Jean-Michel Barjol. Qu'est-ce qu'on peut dire au fur et à mesure du XXe siècle, Fabrice Boudjahaba, de ce travail agricole familial? Est-ce que cela reste une affaire de famille? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Ça reste largement une affaire de famille. Au fond, c'est un peu le démenti, effectivement, de projection qui consistait à penser que le monde agricole allait s'aligner totalement sur le modèle du travail salarié. Et alors, j'ai pas de données extrêmement récentes, mais au début des années 2000, 85% des exploitations en France étaient encore des entreprises transmises par la voie familiale. Donc, ce sont quand même des chiffres extrêmement importants. Et la législation des 30 dernières années a beaucoup améliorer les choses, enfin beaucoup améliorer les choses, on partait de rien, pour rendre visible ce travail familial et pour le rémunérer ou le dédommager. La première loi, c'est celle de 1980, la loi d'orientation agricole qui reconnaît l'existence en fait de ces assistants, de ces aides familiaux. Et puis, à la fin des années 90, c'est la loi de 2005, la dernière loi d'orientation de 2005, ces deux lois renforcent et là mettent, renforcent la situation en prévoyant la cotisation au régime de retraite, etc., notamment pour les femmes, pour les femmes conjointes d'agriculteurs. Et donc là, il y a une progression. Et une progression, la loi de 2005, elle est intéressante parce que jusqu'ici, au fond, même en reconnaissant que des femmes ou que des enfants travaillaient dans l'exploitation familiale et en leur donnant quelques droits, on restait dans l'idée que, bon, voilà, cela se faisait au sein de la famille. Mais la loi de 2005, en fait, elle est intéressante parce qu'elle change le système. Elle dit vous pouvez être assistant familial pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, il faut choisir. Soit vous êtes vous-même exploitant ou co-exploitant avec votre mari, soit vous devenez salarié de l'entreprise agricole. Donc là, il y a effectivement une reconnaissance légale et par le Code du travail, finalement, de ce travail familial.
Yann Boulier-Boutan, comment vous expliquez-vous que le travail agricole soit resté une affaire de famille en France ?
Ben, parce que d'abord, il y a une chose qui s'est vérifiée, c'est que le salariat agricole avec des exploitations industrielles fonctionne mal. Il fonctionne mal d'ailleurs parce que la clé de répartition des profits induits s'en va aux grosses sociétés et que le salarié dans l'affaire est un tel dindon de la farce qu'il n'a pas plus d'incitation à travailler dans une grande exploitation du Middle West américain que dans le Sovkhoz ou le Kolkhoz soviétique. Si vous n'intéressez pas les gens, même on m'a parlé d'intéressement ouvrier sous De Gaulle, si vous n'intéressez pas les salariés agricoles au profit, et Dieu sait s'il en est fait, des grands céréaliers, vous allez avoir affaire à une main d'œuvre qui est soit instable, soit attachée pour des raisons alors qui est que, par exemple, des travailleurs handicapés, plein de travailleurs sont fixés dans ces entreprises, mais vous n'allez avoir pas trop de dynamisme. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un changement profond de regarder de la production agricole. Regardez, par exemple, la question du passage au bio. Comment voulez-vous faire passer une entreprise agro-industrielle qui dépend de fournisseurs, de centrales d'achat, lesquelles dépendent de financiers qui vérifient leurs profits pour qu'ils se mettent à pratiquer une agriculture expérimentale qui va se traduire instantanément par une baisse en volume, il va y avoir un risque, etc. Dans le cas de jeunes ménages, alors ils ont un obstacle terrible en France, c'est le problème de l'installation de la terre, du prix de la terre, etc. Ils ont le prix des équipements qui est exorbitant, mais on voit très bien que c'est par les cellules, le modèle de l'exploitation familiale, que les choses commencent à bouger. Alors ça suffit pas, parce qu'il faut une impulsion. Mais c'est très important, parce que c'est ça qui est en jeu dans la transformation actuelle de l'agro-industrie. Et je pense que la petite exploitation familiale n'a pas fini de faire parler d'elle, et elle risque de se réadapter, de réapparaître sous des guises complètement différentes, avec par exemple des jeunes agriculteurs qui s'installent avec un capital humain dirais-je, un capital culturel beaucoup plus fort. On l'a vu, j'ai eu une thésarde qui s'occupait de la modernisation numérique des paysans en Picardie, et c'est extraordinaire de voir qu'il y a des dynasties. Des dynasties.
Alors beaucoup de transformations dans ce milieu agricole qui demeure.
Donc
familial.
Il ne faut pas le voir de façon archaïque
et en même
ou
temps,
résiduelle.
Et en même temps, on assiste, Yann Mouly-Boutan, au fait que les femmes dans les années 60 rejoignent de plus en plus des conditions, enfin des situations de travail hors de leur domicile, arrivent massivement dans le salariat. Je vous propose d'écouter un reportage.
Avec la même patience, la même application, la femme se mêle aux travaux que les hommes ont inventés. C'est toujours pour lui qu'elle travaille, mais en même temps, c'est pour la société tout entière et elle-même. Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturière, elles les font mieux que les hommes et elles le savent. On a besoin d'elles et plus seulement à la maison. Certaines salles ne comptent qu'un ou deux spécimens mâles. Des contremaîtres comme ceux que nous interrogeons.
Personnellement, je préfère commander à des hommes.
Je préfère également commander à des hommes.
Les hommes sont pas rancuniers. Deux heures après, c'est fini, tandis qu'une femme, ça continue de s'accumuler pendant des semaines et des semaines.
Comment est-ce que vous les réprimandez, si je puis dire ? Dans certains cas, plutôt sèchement. Sèchement et plutôt en vexant la personne que... D'ailleurs, une femme, bien souvent, encaisse moins bien coup qu'un homme. C'est pour ça que, assez fréquemment, on trouve une femme qui est en larmes et qui pleure, qu'il y a des ennuis parce qu'on lui a fait une réflexion. Ah, une femme est une femme, malgré tout, qu'elle soit ouvrière ou pas.
Et oui, une femme est une femme, une petite pépite d'Archive INA de 1964. Un commentaire sur le reportage qu'on vient d'entendre, Fabrice Boudjard.
Un commentaire. Si, il y a des choses intéressantes qui sont dites dans ce reportage. Il y a toujours quelque chose d'intéressant dans un reportage. Effectivement, il y a dans la répartition des tâches dans le monde du travail entre les hommes et les femmes, il y a effectivement un certain nombre de stéréotypes qui reviennent sur la patience, sur l'application, c'est les termes qui sont utilisés, sur les mains de couturière. Et c'est intéressant de voir comment, finalement, ces qualités présumées, elles peuvent passer d'un secteur à un autre, parce qu'au fond, ce sont des qualités qu'on donnait aux femmes quand elles étaient à la maison, dans la ferme, et qu'on continue de leur donner ailleurs, quel que soit le métier. Et c'est amusant, parce que, par exemple, le textile, effectivement, les femmes ont eu un rôle très important dans le textile, dans l'industrie textile, mais le démarrage de l'industrie textile au tout début de l'époque moderne, dans les fermes, ce sont les hommes qui travaillent le textile. C'est plus tard que ça passe aux femmes, en fait.
Mais bon. Et ce qu'on entend aussi dans ce reportage, Yann Mouly-Boutan, c'est la relégation à des tâches subalternes des femmes. Les seuls hommes qui sont présents sont les contremaîtres.
Alors ça, c'est la question de la division. La division très forte. Hein. Il y a la division par les immigrés, il y a la division un corps ouvrier qui est composé à moitié de femmes, moitié d'hommes. C'est comme la classe ouvrière anglaise composée à moitié d'Irlandais, à moitié de gens du pays de Galles et d'Anglais. Ça ne bouge jamais parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de solidarité. Il y a des divisions profondes. Et quand en plus, elle recoupe les divisions de genre, alors là, on se prend tout. Dans le reportage, on voit très bien, on se prend tous les stéréotypes à la fois, avec une position hiérarchique. Alors, ce qui est amusant, c'est les renversements actuels. Je me souviens d'expérimentations de Peugeot, qui avait, dans son usine de Sochaux, faute de manœuvre. Ils n'avaient plus personne. Et ils avaient des immigrés, mais ils n'avaient plus de contremaîtres français, blancs, machin. Alors, ils ont commencé à expérimenter sur des ouvriers maghrébins ou turcs, de mettre une femme dans le poste de contremaître. Et là, vous voyez, donc il y a un changement, un renversement de choses, mais ce qui compte, c'est qu'il y a toujours une division qui est assez savamment entretenue, que ce soit pour les femmes qui sont renvoyées à la maison ou pour les femmes qui travaillent en précaire face à l'homme qui travaille de façon stable.
Avec cette idée d'une double journée aussi.
La double journée de travail.
D'être salarié et en plus
d'assumer le travail domestique.
Sur cette question à Fabrice Boudjahaba et sur le fait aussi que les femmes sont effectivement, qu'on dévolue aux femmes un certain nombre de tâches auxiliaires ou à des activités proches de la sphère privée. Je pense en particulier à l'économie du care, l'économie du soin.
Oui, effectivement, au fond, le mouvement de vers l'emploi et qui sort donc du travail traditionnel, j'ai envie de dire, qui amène la population vers le salariat, il s'accompagne d'une spécialisation, d'une division, enfin du type de tâches attribuées aux hommes et aux femmes. Et effectivement, on constate aujourd'hui que dans un certain nombre de métiers auxquels on trouve des apparentements avec l'activité familiale, on trouvera plus de femmes, les métiers de la médecine, mais, enfin pas les médecins évidemment, les métiers de l'assistance aux personnes âgées, etc., sont des métiers extrêmement féminisés.
Alors on arrive presque au terme de cette émission, on a parlé du travail à domicile des couturières au 19e siècle, on assiste aujourd'hui, Yann Moulier-Boutan, à une autre forme de travail à domicile, à un retour de ce travail à domicile sous l'effet de l'économie numérique.
Voilà, et c'est une façon, si vous voulez, de comprendre. Je pense que le capitalisme s'est toujours caractérisé par son intuition des nouveaux domaines qui étaient exploitables, qui étaient où on avait de la main-d'œuvre. Et au fond, si on voit bien qu'est-ce qu'ont fait les GAFA, ils ont mis au travail l'activité des non-actifs, entre guillemets, qui sont présents sur le réseau, qui consomment, qui transmettent de l'information, qui transmettent une meilleure connaissance du marché et qui proposent à différents niveaux. Je pense dans les pays en voie de développement comme l'Éthiopie, ils proposent que aux enfants d'acquérir un revenu ou même aux femmes d'acquérir un revenu qui consiste à repérer, reconnaître les visages plus vite que les algorithmes artificiels ou de déjouer les robots dans les si vous voulez l'utilisation massive de robots pour des raisons publicitaires, etc.
Et finalement, les consommateurs sont mis à contribution.
À d'autres niveaux, les click workers, la consommation, tout le temps familial maintenant peut être mobilisé de façon productive. Et c'est pour ça que les GAFA, à mon avis, ont un dynamisme bien plus grand, d'autant que c'est accompagné de quoi ? Non pas d'une sécurité d'emploi, mais c'est accompagné d'une ubérisation qui à nouveau retombe, d'une précarisation qui à nouveau retombe plus sur les femmes
que sur les hommes. Toute la question étant effectivement, est-ce qu'il s'agit là d'une extension du capitalisme ou d'une forme de libération possible ? Certains vous diront qu'au contraire, le travail à domicile, c'est une façon de se dégager du temps et de s'organiser d'une meilleure façon. Fabrice Benchaba.
Tout le débat est là, en fait, effectivement. Aujourd'hui, le travail à domicile, sous ses formes numériques, etc., se développe, mais il se développe en même temps qu'une augmentation, un accroissement de l'incertitude contre laquelle protéger l'emploi salarié classique. Donc on est dans un moment, et vous avez cité Uber, effectivement, c'est bien la question, de créer des emplois qui n'en sont plus. Voilà, on est vraiment dans cette tension. Est-ce que c'est la suite du capitalisme ? C'est son triomphe ou est-ce que c'est sa difficulté
Et on voit ça avec tous les procès qui sont menés actuellement contre Uber et qu'on continue à suivre de très près. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure du journal de l'Écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un pacte productif pour remédier au déclassement industriel français et atteindre le plein emploi en 2025. C'est l'ambition du ministre de l'Économie qui a présenté hier les grandes lignes de ce plan.
Et d'abord un diagnostic qu'il dit sans concession du déclin industriel français, dont les mésaventures des turbines à gaz de GM Belfort, des tubes en acier d'Ascoval ou des pneus Michelin ne sont qu'une des actualités. Sur 10 ans, dit le ministre, 100 usines ont fermé chaque année, 76 depuis le début 2019. Une perte d'un million d'emplois. Pour y remédier d'ici à 2025, le plan prévoit 5 axes, dont une levée de fonds de 20 milliards d'euros pour la montée en gamme de l'industrie et aussi, deuxième mesure importante, une baisse des impôts à la production, 72 milliards d'euros en tout. Cet impôt, décrit comme 7 fois plus important qu'en Allemagne, est un des freins identifiés par Bruno Le Maire. Les deux autres sont la faible durée du travail et le manque de formation. Le ministre n'hésite pas à parler de risque de déclassement productif. Anne-Sophie Alsif, qui est économiste senior à la Fabrique de l'Industrie, est-elle plus nuancée ?
Je pense que le terme de déclassement est peut-être un peu fort, notamment par rapport à l'Allemagne, qui est quand même, même si on aime bien faire des comparaisons, une économie exportatrice avec un outil industriel beaucoup plus structuré. On parle souvent du Mittelstand allemand, bien évidemment, en ayant une économie plus de consommation basée sur les services. Eh bien, en effet, peut-être que la conservation de notre tissu productif n'a pas été une des priorités. Je pense que déjà, ce qui est vraiment une très grande avancée, et on peut vraiment le souligner, gagner, c'est vraiment cette prise de conscience qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose, de voir qu'énormément de ministres ont participé à ce pacte productif, donc c'est vraiment une question transversale, c'est pas seulement un secrétaire d'État ou un ministre qui doit dans son domaine réindustrialiser et s'occuper de la production. Ensuite, la montée en gamme, le diagnostic est très bon. Bon, il avait été déjà fait, mais en effet, on a un positionnement niveau de gamme plutôt moyen avec des prix assez élevés. Et donc, ça a un impact sur notre compétitivité. Donc là, en effet, l'investissement et l'innovation sont indispensables parce que c'est vraiment peut-être sur le haut de gamme que l'on pourra prendre des parts de marché, qu'on pourra s'insérer dans ces chaînes de valeur mondiale à plus forte valeur ajoutée. Sur les impôts, là, il faut être plus nuancé parce que c'est vrai que ces impôts, déjà, prennent beaucoup de choses en compte et aussi financent la transition écologique ou finance également les territoires.
Puisque sur les 72 milliards d'euros que rapportent les impôts à la production, 68 milliards et demi reviennent aux collectivités locales.
Et oui, les communes, les départements, les régions, ces impôts touchent trois catégories, le foncier, les employés et puis des impôts propres comme la C3S, un impôt sur le chiffre d'affaires qui rapporte lui 3 milliards et demi d'euros. Selon le Conseil d'analyse économique et sociale en juin, sa suppression permettrait de faire rentrer 5 milliards d'euros dans la balance commerciale française. Cependant, le gouvernement ne prévoirait pas une suppression complète de ces impôts à la production, mais une réduction de 400 millions d'euros. Et comme il s'agit d'un pacte, les concertations doivent durer 6 mois.
On passe aux brèves. Après un mois de grève de 50 000 salariés chez General Motors aux États-Unis, peut-être une sortie de crise demain.
C'est ce que laisse penser deux signes. D'abord, les syndicats du principal syndicat UAV ont envoyé un courrier demandant à tous leurs représentants d'être présents demain pour voter. Ceci au moment où la PDG de General Motors, Mary Barra, revient en personne aujourd'hui à la table des négociations. De bons présages donc pour un accord d'après les connaisseurs. Peut-être aussi après un mois, l'épuisement se fait-il sentir. Selon Bank of America, la grève représente 2 milliards de dollars en manque à gagner pour General Motors et 4 000 dollars par salarié.
Et on finit avec une couverture santé qui est proposée désormais par Deliveroo à ses livreurs en France.
Jusqu'à 30 euros, oui, par jour et jusqu'à 15 jours de congé maladie. C'est ce qu'il faut ajouter au versement de la sécurité sociale. Une innovation permise par l'article 20 du projet de loi mobilité qui autorise des chartes facultatives proposant des droits sociaux aux travailleurs. En réalité, une assurance privée, explique le représentant d'un des collectifs de livreurs CLAP, est peut-être aussi un moyen de contourner les tentatives juridiques de requalification des contrats de livreurs indépendants en salariés autonomes. Plusieurs procédures sont en cours en France. L'année dernière, la Cour de cassation avait d'ailleurs ordonné la requalification d'un livreur à vélo d'une autre entreprise.
Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over. Lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness.
Heart and Soul de Roseau avec Oli Naïman. Merci beaucoup Fabrice Boudjaba et Yann Mouillet-Boutan de nous avoir accompagnés aujourd'hui au sein des ateliers familiaux. Demain, nous parlerons de la circulation de l'argent et de la solidarité entre les générations. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.